Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant et un peu vertigineux, les agents IA.
Bonjour.
Oui, ces systèmes d'intelligence artificielle qui deviennent capables d'agir de façon de plus en plus autonome.
Exactement. Pensez à des assistants virtuels surpuissants, quoi. Forcément, ça soulève pas mal de questions sur l'avenir du travail.
Ah oui, les craintes habituelles, remplacement d'emploi, perte de contrôle humain, dépendance excessive à la technologie.
C'est ça.
Et le souci, c'est qu'on manque encore un peu d'une vision claire de l'impact réel. On navigue un peu à vue. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va décortiquer ensemble un article de recherche tout frais, prépublié sur Arxiv. Il est signé Chao et ses collègues.
Une étude intéressante, en effet. L'objectif, c'est de comprendre leur méthode. Parce qu'elle est assez originale, elle propose d'évaluer l'intégration de ces agents IA en regardant deux choses. Ce que les travailleurs aimeraient déléguer à le facteur humain.
Voilà. Et de l'autre côté, ce que l'IA peut réellement faire aujourd'hui. Donc, on va creuser ça.
Allons-y.
Donc, l'article met en avant ce qu'il appelle un cadre d'audit. C'est une approche nouvelle pour combler ce manque de compréhension dont on parlait.
Oui, et ce qui est vraiment neuf, c'est cette double perspective. Pas juste la capacité technique.
Non, c'est ça, mais aussi le désir humain derrière. Ils ont même fait des petits entretiens audio pour bien saisir toutes les nuances des préférences des gens.
Tout à fait. Et au cœur de ce cadre, il y a un outil spécifique qu'ils ont développé, l'échelle d'agence humaine. HAS pour Human Agency Scale.
HAS, d'accord. Et ça sert à quoi concrètement?
Son but, c'est de mesurer, de quantifier, en quelque sorte, le niveau d'implication humaine que les travailleurs souhaitent conserver pour différentes tâches.
Ah, d'accord, c'est plus fin que juste automatiser ou pas automatiser.
Exactement. Ça donne un langage commun, plus nuancé. Et ce qui est, je trouve passionnant, c'est cette tentative de mesurer le désir d'autonomie. Est-ce qu'on veut garder la main? Où est-ce qu'on est prêt à lâcher prise?
Intéressant. Et pour mettre ça à l'épreuve, ils ont dû collecter des données, j'imagine?
Absolument. Ils ont construit une base de données assez conséquente, Workbank. Elle s'appuie sur Onet, la grosse base de données américaine sur les métiers, gérée par le département du travail.
Onet, oui, très connu. Et Workbank, ça représente quoi en chiffres?
Alors, ils ont interrogé 1500 travailleurs. Et en parallèle, ils ont demandé à des experts en IA d'évaluer les capacités actuelles de la technologie pour 844 tâches précises.
844 tâches, d'accord.
Oui, couvrant 104 professions différentes. Donc ça donne un panorama assez large et détaillé du monde du travail actuel.
Impressionnant. Et avec toutes ces données, qu'est-ce qu'ils font? Ils croisent les infos?
C'est ça l'idée. Ils croisent le désir humain, mesuré par le HAS, et la capacité technique, évaluée par les experts. Et ça leur permet de classer chaque tâche dans une de quatre zones.
Quatre zones? Lesquelles?
Alors, il y a d'abord la zone feu vert. Là, c'est simple. Les gens sont plutôt d'accord pour déléguer la tâche et la technologie est prête. Donc, feu vert pour l'automatisation en théorie.
Logique. Ensuite?
Ensuite, la zone feu rouge. C'est l'inverse en quelque sorte. La technologie serait capable de faire la tâche, mais les travailleurs, eux, préfèrent garder le contrôle.
Ah, celle-là est intéressante. Le feu rouge. Ça touche à des points sensibles, j'imagine. Le jugement, la responsabilité, peut-être?
Probablement. L'étude ne donne pas forcément le détail pour chaque tâche dans ce résumé, mais oui, on peut penser que ça concerne des activités où l'aspect humain, l'interaction directe, le jugement critique sont jugés essentiels. C'est là qu'on voit un décalage potentiel important.
D'accord. Et les deux autres zones?
Il y a la zone opportunité, R&D. Là, les travailleurs aimeraient bien déléguer, mais la technologie n'est pas encore tout à fait au point. Donc, une piste pour la recherche et le développement.
Ok, un appel du pied aux développeurs.
Voilà. Et enfin, la zone de faible priorité. Ni grand désir de déléguer, ni capacité technique très avancée pour cette tâche. Donc, moins prioritaire pour l'automatisation immédiate.
D'accord. Cette cartographie en quatre zones, ça permet de voir où les efforts en IA pourraient être mal ciblés par rapport aux attentes réelles, non?
Exactement. Ça met en lumière des décalages et inversement des opportunités pour que le développement futur soit mieux aligné sur ce que les gens souhaitent vraiment.
Alors, venons-en aux résultats principaux. Qu'est-ce qui ressort de cette analyse?
D'abord, une confirmation. Il y a une très grande diversité d'attentes. Oui, on s'en doutait un peu, mais c'est quantifié là. Voilà. Les profils AS, donc les désirs d'implication, varient énormément d'une profession à l'autre. Ce n'est pas du tout un bloc unique pour ou contre. C'est bien plus complexe et spécifique.
D'accord, pas de réponse simple. Et au-delà de cette diversité?
Alors là, on touche à un point vraiment central, je trouve. l'étude suggère qu'on pourrait assister à un basculement, un glissement dans la hiérarchie des compétences humaines qui sont valorisées.
Un glissement, c'est-à-dire ?
Mais si on imagine que l'IA prend charge de plus en plus de tâches liées au traitement pur de l'information, à l'analyse de données, etc., quelles compétences humaines deviennent, du coup, encore plus cruciales ?
Les compétences relationnelles, peut-être. C'est exactement l'hypothèse forte de l'étude. Un renforcement de la valeur des compétences interpersonnelles. La collaboration, l'empathie, la communication fine, l'intelligence émotionnelle. Ce que la machine a le plus de mal à faire, finalement.
Précisément. Ce qui est profondément humain. Et ça a des implications énormes. D'abord, aligner le développement de l'IA sur ses désirs humains, comme on disait. Mais aussi, et c'est crucial, préparer la main-d'œuvre.
Préparer les travailleurs à ce changement de focus sur les compétences.
Oui, anticiper cette nouvelle dynamique potentielle sur le marché du travail.
Alors, si on essaie de synthétiser un peu, qu'est-ce qu'on retient principalement de cette approche ?
Je dirais que l'apport majeur, c'est de proposer une grille d'analyse qui remet vraiment l'humain au centre de la réflexion sur l'IA au travail.
On dépasse la simple question technique du « est-ce que la machine peut le faire ?» Voilà, pour intégrer la question fondamentale du désir. Est-ce qu'on veut qu'elle le fasse ? Et si oui, comment ? C'est une perspective essentielle si on veut une intégration de l'IA qui soit plus harmonieuse, mieux acceptée, une vision plus complète en somme.
Tout à fait. Et si on devait finir sur une pensée un peu provocatrice, ou du moins une question ouverte, ce possible glissement de valeur vers le relationnel, vers l'interpersonnel, ça nous interroge tous individuellement et collectivement. Si les tâches purement informationnelles sont de plus en plus gérées par l'IA, comment fait-on activement pour cultiver, pour reconnaître et surtout pour valoriser ces compétences humaines?
L'écoute, la collaboration, l'empathie.
Exactement. Ces compétences qui non seulement résistent à l'automatisation, mais qui pourraient bien devenir le cœur même de notre valeur ajoutée dans de nombreux métiers. C'est une vraie piste de réflexion pour chacun, pour les entreprises, pour la formation. Pour l'avenir, quoi.
Une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.